Radio Campus Tour, vous écoutez La Mérinienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Savez-vous, chers auditeurs, que les 26e Journée Nationale Prison se tiendront du 23 au 30 novembre 2019. Avec moi dans le studio pour parler de ce sujet, pour le moment deux invités. Bonjour Monique Caria.
Bonjour.
Alors Monique Caria, vous êtes ici à plusieurs titres, mais en particulier parce que vous faites partie de l'Association nationale des visiteurs de prison, c'est bien ça ?
Tout à fait. Voilà. Et j'interviens en prison en tant que visiteuse.
Voilà, et à côté de vous, il y a également Lise Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Alors Lise Bertrand, vous êtes, vous, bénévole au Genépi ?
Oui, tout à fait. C'est ma troisième année de bénévolat au Genépi Tours.
Alors mesdames, avant de parler plus en détail de vos associations, j'aimerais rappeler à nos auditeurs quelques chiffres au sujet des prisons. Donc ces chiffres viennent du site du groupe national de concertation prison, dont font partie, il me semble, vos deux associations.
Oui.
Alors, combien de personnes sont en prison en France ? En France, une personne sur 1000 est en prison. Au 1er avril 2019, il y avait 71 828 personnes incarcérées. Qui est en prison ? La population carcérale est très masculine. On estime, toujours au 1er avril 2019, que les femmes représentaient 3,8% de la population carcérale, ce qui fait à peu près 3000 femmes détenues. On estime également qu'il y a 845 mineurs détenus en France. Voilà, sachant qu'en France, on ne peut pas être incarcéré avant ses 13 ans. Une personne détenue sur 5 est de nationalité étrangère. On peut dire aussi qu'il y a eu 131 suicides en 2018, soit environ 7 fois plus de suicides qu'à l'extérieur. On y trouve 10 fois plus de cas de tuberculose, 4 fois plus de personnes dans la population carcérale souffrent de troubles psychotiques que dans la population générale. Voilà, et il y a aussi une personne détenue sur 4 qui a la possibilité de travailler et aussi dans une grande pauvreté. Donc il y a un énorme problème de pauvreté parmi la population carcérale, et je pense que tout ça, vous allez pouvoir le détailler. Donc tous ces chiffres, ils sont à retrouver sur le site du groupe national de concertation prison. Il y en a plein d'autres édifiants, mais je ne veux pas tous les lire, puisque l'idée, c'est quand même de vous donner la parole pour que vous puissiez aussi nous faire part de votre expérience de terrain. Alors peut-être que l'on peut commencer, mesdames, par présenter vos associations. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, Monique Caria, sur la NVP ?
Alors bon, je voudrais parler de la NVP, mais je suis également là en tant que vice-présidente d'Entraide et Solidarité, qui est une association sur Tours. Donc on va commencer par la NVP, donc c'est une association nationale des visiteurs de prison, et moi je suis adhérente à cette association, et nos missions c'est d'intervenir en prison. Donc nous intervenons par des rencontres avec des personnes détenues qui en font la demande. Ce sont des rencontres, des échanges, il n'y a pas de thème particulier, ce sont des rencontres qui se font spontanément, et je suis également dans ce cadre-là écrivain public à la maison d'arrêt de Tours, parce que tout à l'heure vous aviez parlé des gens qui étaient en extrême pauvreté, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont illettrés, qui ont des difficultés avec l'écriture. Voilà, donc par rapport à être mon rôle de visiteuse. Et je voudrais parler aussi de l'association Entraide et Solidarité. Donc nous sommes une association sur Tours, qui n'existe que sur Tours, qui a plus de 70 ans d'existence. Elle a été créée il y a 71 ans exactement par un abbé, l'abbé Pinault, qui était visiteur de prison. Et dans notre association, qui a beaucoup grossi depuis ses 71 ans, nous avons un service qu'on appelle accompagnement prison justice. Et dans ce service, nous avons depuis plus de 30 ans une maison, une maison d'accueil en face la maison d'arrêt où nous recevons les familles des personnes détenues qui viennent au parloir pour voir leurs proches. Nous avons également dans cette association une assistante sociale qui intervient à la maison d'arrêt pour aider à préparer à la sortie. Parce que Tours étant une maison d'arrêt, il y a beaucoup de courtes peines. Et quand des gens ont une courte peine, ils peuvent sortir au bout de 2-3 mois, ils ont le temps de tout perdre, leur logement, le RSA, s'ils avaient le RSA, et quelquefois leur famille. Donc nous avons donc cette assistante sociale qui intervient. Et depuis 2-3 mois, nous avons également... un logement pour des personnes qui sortent de prison et qui n'ont pas de famille.
Alors peut-être une question pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec tous les termes que vous employez. Est-ce que vous voulez préciser ce qu'est une maison d'arrêt et pourquoi les détenus se retrouvent dans des situations si critiques puisque vous avez dit qu'ils ne perdent le RSA. Alors est-ce que vous voulez préciser ?
Voilà, donc je vais préciser. Donc une maison d'arrêt, c'est une prison où toute personne qui a commis un crime ou un délit dans le département est arrêtée. Donc normalement, les maisons d'arrêt sont faites pour des courtes peines, donc jusqu'à 2 ans. Actuellement, nous avons des personnes qui peuvent très bien être incarcérées pour 3 mois. Parce que bon, il y a de plus en plus de délits qui mènent à la prison. Et effectivement, le RSA, je crois qu'on le garde pendant 2 mois tant qu'on est en prison. Et au bout du 3e mois, il n'y a plus rien. Souvent, c'est des personnes très démunies qui avaient déjà des dettes, qui vont perdre en même temps leur appartement, leur travail aussi. Donc, c'est en ce sens-là que nous, on a envie d'intervenir pour ces gens pour lesquels la prison n'a pas le temps de préparer à la sortie. Alors, pour des plus longues peines, ils ne restent pas en maison d'arrêt. Une fois qu'ils ont été jugés, ils vont ou dans des centrales ou dans des centres de détention. Et là, il y a normalement une préparation à la sortie. Avec par du travail, par des formations, qui ne peut pas exister à la maison d'arrêt de Tours, puisque les gens normalement restent très peu.
Je me tourne vers vous, Lise Bertrand. Donc vous êtes bénévole au Jeune Épi. Donc le Jeune Épi, c'est une association, il me semble, qui a 40 ans. Alors qu'est-ce que vous aimeriez en dire de cette association ?
Alors ouais, vous avez raison, le Jeune Épi, c'est une association qui existe depuis 43 ans. Elle a été créée en 1976, suite par exemple au mouvement de mutinerie qu'il y avait dans les années 70 en détention. C'est une association nationale, donc le siège est à Paris. Moi, je fais partie du Jeune Épi Tours, qui est une antenne locale. En deux mots, le Jeune Épi, c'est une association à majorité étudiante qui milite pour le décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs et des témoignages entre les personnes enfermées, les bénévoles et la société civile. Faut savoir que Jeune Épi, au départ, c'était un acronyme et maintenant ça correspond plus. Ça voulait dire Groupement étudiant national pour l'enseignement aux personnes incarcérées. En 2014, on a décidé d'arrêter d'utiliser cet acronyme parce que ça correspondait plus, notamment par certains termes comme étudiant, parce qu'il ne faut pas nécessairement être étudiant pour faire partie du Jeune Épi. Aussi par le terme enseignement, parce que nos actions en détention, c'était plus que l'enseignement et c'était plus le rôle qu'on voulait avoir. Arriver en détention avec un rôle de sachant, c'est plus quelque chose qui nous correspondait. Et aussi personnes incarcérées, parce que nos actions ne touchent pas que les personnes incarcérées. Il faut savoir qu'actuellement, on a 2 piliers. Jusqu'en juin 2019, on en avait 3. C'est qu'en fait, en juin 2019, on a voté à l'AG l'arrêt de l'action en détention. Suite à des différends avec l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice, qui nous versait de l'argent qui nous permettait de faire vivre l'association, et ça nous a été coupé. La convention qui nous permettait d'intervenir en détention nous a été coupée aussi. Et en fait, on pouvait plus, c'était plus possible pour nous d'intervenir en détention et de militer à cause des conditions de vie en prison. C'était plus possible de recevoir de l'argent du gouvernement et en même temps d'intervenir parce qu'il fallait montrer patte blanche envers un système qui nous correspondait plus, enfin qui pour nous nous correspondait plus. Du coup, nos 2 piliers actuellement, c'est l'ISP, l'information et la sensibilisation du public. Donc ça peut passer par plein de types d'événements. Ça peut être des conférences, débats, ça peut être des actions dans la rue. On en fait avec Monique. Ça peut prendre plein de formes. Par exemple, comme aujourd'hui, le fait de venir ici, c'est une ISP. Et aussi, il y a aussi du coup les formations et réflexions. Par exemple, ce week-end à Paris-Nanterre, on a le WERG. C'est une formation en fait où on va se retrouver entre tous les bénévoles qui peuvent se rendre à Paris-Nanterre du coup pour échanger sur des sujets d'actualité, former les nouveaux bénévoles, ce genre de choses. Voilà.
Alors mesdames, puisque vous êtes nos experts de terrain aujourd'hui sur la maison d'arrêt de Tours, qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Où en est-on de la population carcérale de la maison d'arrêt de Tours?
Alors, comme toutes les maisons d'arrêt, la maison d'arrêt de Tours est surpeuplée. Ce qui n'arrive pas dans les centres de détention, et voilà, il n'y a pas plus de personnes dans les centres de détention que de places. Alors que la maison d'arrêt, je me souviens d'une directrice qui disait, moi mon hôtel il est jamais complet, même si à 2h du matin on m'amène 3 personnes je suis obligée de les accueillir. Et actuellement il y a je pense autour de 200% de surpopulation. C'est une maison d'arrêt pour laquelle il y a au départ 140 places et je pense qu'ils sont pas loin de 300, quelque chose comme ça actuellement. Donc ce qui veut dire c'est 3 personnes par cellule dans 9 mètres carrés. Et c'est 22 heures sur 24, puisqu'ils ont droit à une heure de promenade par jour. Alors bien sûr, il y a des activités qui sont proposées, mais les activités, tous ne peuvent pas y aller, puisqu'il y a surpopulation. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe actuellement à la maison de Tours, avec toutes les difficultés que cela peut comporter de se retrouver dans un espace clos sans pouvoir sortir beaucoup. Bon, même si là, actuellement, il y a eu un directeur qui a apporté des choses, qui a fait refaire des travaux à l'intérieur, qui a permis qu'il y ait des frigos, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de frigos. Les conditions sont quand même pas du tout extraordinaires.
Est-ce que vous voulez donner des exemples, par exemple, des conséquences que ça, cet enfermement à 3 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés?
Alors les conséquences, c'est effectivement la proximité. Enfin, tout le monde peut s'imaginer déjà de vivre 22 heures sur 24 avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Bien sûr, pas possibilité de sortir quand on veut. Beaucoup d'attentes, puisque les surveillants qui ont un métier très difficile, il faut reconnaître, c'est pas facile, sont aussi débordés. Il y a beaucoup de monde, donc ça veut dire aussi que ils peuvent pas quelquefois faire des activités. Enfin, moi personnellement, je fais des permanences à la bibliothèque de la maison d'arrêt. Et bien très souvent, on fait des permanences, on a personne, alors que quand on revoit les gens après, ils avaient envie de venir. Mais les surveillants, ils ont un tel travail, ils sont tellement débordés et que ils ont pas toujours le temps d'aller chercher les personnes. Et ce qui fait que donc ils ont moins d'activité, donc il y a plus d'agressivité, plus de violence, plus de passage à l'acte, tentative de suicide ou autre. Enfin voilà, c'est les conséquences, c'est un peu ça. C'est beaucoup ça.
Il y a aussi énormément quand même un impact psychologique.
Bien sûr. Alors moi je dis que les prisons, c'est les plus grands hôpitaux psychiatriques. Alors effectivement, il y a déjà des personnes qui arrivent, qui ont déjà des problèmes psychiatriques, mais je pense que la prison contribue à ce que des personnes qui étaient peut-être un peu fragiles en ressortent avec des problèmes beaucoup plus importants. Même s'il y a un service médical de l'hôpital avec des psychiatres, des psychologues qui fait son travail, qui est complètement indépendant de la maison d'arrêt, mais c'est pareil, plus il y a de personnes, ils peuvent pas voir tout le monde. Alors on se retrouve avec des gens qui n'ont pas les soins dont ils auraient besoin et qui vont ressortir. Et quand ils vont ressortir, ils seront pire que quand ils sont rentrés. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux. C'est d'où le thème des journées nationales prison. C'est sortir du cercle vicieux, parce que on rentre pour un délit. On n'a pas d'activité. On ne sort pas. Il y en a certains qui ont peur même d'aller en promenade. Ils ont peur des autres. Il y a de la violence. Et on sort, on est plus atteint qu'on l'était au départ. Ça, c'est quand même la réalité de la prison à l'heure actuelle.
Donc ça veut dire que des personnes, parce qu'ils ont commis un acte, quel qu'il soit, sont sorties du monde commun, si on peut dire, pour mettre dans un endroit qui finalement ne répond à aucune réalité humaine, aussi bien au niveau des rythmes que des activités. Et donc finalement, ça renforce l'exclusion qui était peut-être à l'origine.
Oui, oui, ça renforce l'exclusion, effectivement. Ils sont privés de liberté, mais pas que de liberté. Enfin, vous voyez, la prison de Tours, c'est donc 9 mètres carrés, il y a 3 lits. Les toilettes sont à l'intérieur, mais ne sont pas fermées complètement. Il y a un lavabo avec de l'eau froide et ils n'ont droit à des douches que 3 fois par semaine qui sont à l'extérieur. Voilà, donc c'est la réalité de la maison d'arrêt de Tours, de beaucoup de maisons d'arrêt. Les nouvelles prisons qui sont construites actuellement, bon, il y a la douche, il y a un confort, ce qui ne veut pas dire que les conditions sont mieux, mais là déjà matériellement c'est très difficile.
Et du coup, je reprends un peu les termes de Monique, c'est quand on parle de cercle vicieux, c'est totalement ça, parce que du coup les personnes qui vont en détention, c'est des personnes qui, on peut dire d'un certain côté, sont inadaptées par rapport à la société de base. On va les mettre dans une société carcérale où il y a des nouvelles règles, des nouvelles façons de fonctionner, et ce qui font que quand on va les remettre dans la société de base auquel ils correspondaient déjà pas, ils en auront encore moins les codes parce qu'ils auront dû prendre les codes de la société dans laquelle ils ont été forcés de vivre. Par exemple, quand moi j'avais discuté avec des personnes qui m'expliquaient que ils avaient plus le réflexe d'ouvrir une porte. Dès qu'il y avait une sonnerie d'alarme quelque part, ils se couchaient par terre parce que ça voulait dire fouille. Enfin, c'est super invalidant, en fait, parce que ouais, c'est des personnes qui perdent des codes d'une société qu'ils avaient déjà pas de base.
Ils sont toujours obligés d'attendre. Voilà, ils ont besoin de quelque chose. Le surveillant n'étant pas toujours disponible, il faut attendre. Donc, en prison, il y a beaucoup de bruit, il tape beaucoup dans les portes. Mais effectivement, moi, je les comprends, parce que moi qui vais à la bibliothèque... On attend, hein, on donne de notre temps, on arrive à 2h, à 3h, on a toujours personne, on a sonné, et parce qu'on est enfermé aussi, et personne ne vient. Donc voilà, c'est ça, c'est un fonctionnement, et donc quand ils restent là, ils sont habitués à ce fonctionnement. Effectivement, comme tu dis, Lise, quand ils sortent, ben, ils ont perdu les repères de la société ordinaire. Enfin, c'est très compliqué.
Et d'ailleurs, même sur des réalités, bassement matérielles, entre guillemets, mais sur tout ce qui est se faire à manger, oui. Faire les courses, avoir une idée de la valeur de l'argent, tout ça, c'est des choses qui n'ont plus cours, en fait, qui disparaissent complètement. Donc, en effet, comme vous le disiez, Lise Bertrand, c'est d'autant plus difficile de devoir se réadapter ensuite à la société.
Ouais, ouais, ouais. Puis pareil, je pense à un ancien détenu que j'avais rencontré, qui m'avait demandé, on devait se voir un après-midi dans un café pour que je l'interviewe, et il m'avait demandé de l'appeler pour le réveiller. Je me suis dit, avec son âge, il est capable de se réveiller tout seul. Et en fait, quand j'en ai parlé avec les autres bénévoles, ils m'ont dit, oui, mais lui, pendant des années, c'était pas lui qui se réveillait, l'action de se réveiller, ça venait pas de lui. Donc même dans des gestes tout bêtes que nous on fait au quotidien, ça les handicape et ça les déshabitue totalement d'un mode de vie normal.
Je vous propose, mesdames, de faire une première pause musicale dans cette émission La Méridienne, et on se retrouvera tout de suite après. Je vous propose donc d'écouter cet album qui me tombe sous la main. C'est le nouvel album de Ludwig von 88, et nous allons écouter Hansel und Gretel, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour.
So
Ludwig von 88 sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio. Monique Caria, Entraide et Solidarité et ANVP. Et Lise Bertrand du Genépi. Nous parlons des journées nationales prison qui se tiendront du 23 au 30 novembre et aussi de la vie, si on peut dire, en prison. Hors antenne, mesdames, nous faisions un parallèle avec la prison et la psychiatrie. Voilà, je vous laisse peut-être rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous voudriez en dire ?
Oui, moi, ce que je disais, c'était qu'au niveau juridique, la détention et les hôpitaux psychiatriques, c'est des centres de privation de liberté. Donc, en fin de compte, il y a pas mal de points qui correspondent. C'est ce que vous disiez. Oui. Bah, y a plein de repères qui sont perdus. Il y a plein de choses qu'on a appris à faire à des moments particuliers de la vie que l'on perd totalement. C'est des personnes qui deviennent dépendantes, en fait.
Voilà, on disait aussi qu'il y avait un effacement total du rapport au temps.
Oui. Bah, effectivement, ils sont un peu programmés. Ils ne connaissent pas forcément les jours de la semaine au bout d'un certain temps. Hein. Le matin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, on vient les réveiller, ils n'ont plus d'autonomie pour se réveiller, pour se faire à manger, ils sont dépendants complètement de quelqu'un qui a un pouvoir, qui a des clés. Voilà. Et quand ils sortent, effectivement, on voit souvent le mal-être. Alors on pourrait parler du mal-être des personnes qui sont détenues. Alors bien sûr, quand ils arrivent pour la première fois, bon, c'est très violent. Là, il peut y avoir des risques suicidaires. Donc là, à Tours, ils sont dans un quartier arrivant qui est assez, qui est petit, où il y a une attention, où ils rencontrent les gens pour bon voir si comment ils se comportent. Il y a un autre moment qui est très très difficile pour eux, c'est quand ils vont avoir leur jugement. C'est très, très difficile. Et il y a un autre moment, c'est le moment de la sortie. Même s'ils attendent cette sortie, ils l'attendent, ils savent très bien que la réalité va être un peu différente. Leur famille va continuer à avancer. Même si la famille est venue les voir régulièrement, ce n'est pas du tout la même relation. Et ce sont des moments très, très difficiles où il faut aussi de la surveillance. Et moi, j'ai vu quelquefois des gens qui, en fin de peine, on leur propose une semi-liberté. Une semi-liberté, donc à Tours, il y a un quartier semi-liberté. Ce qui veut dire que dans la journée, ils sont libres, donc ils ont des choses à faire, ou chercher du travail, ou un appartement en lien avec des travailleurs sociaux. Ou quelquefois, il y en a qui ont trouvé du travail, et ils rentrent dormir le soir. Eh bien, certains, c'est trop dur pour eux. Et donc, ils font tout pour revenir en prison et terminer leur peine tranquillement. Parce que la semi-liberté, ça demande d'arriver à l'heure, le soir, d'arriver sans avoir bu. Donc, ils sont sortis quelquefois, ils ne sont pas occupés toute la journée. Et il y en a beaucoup, moi, quand je les revois, ils disent « Oui, je préfère être là parce que c'était trop compliqué pour moi ». Oui, donc et là, ce ne sont pas forcément des très longues peines, puisque c'est peut-être autour de 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, déjà, ils ont déjà perdu tous ces repères-là. Et c'est surprenant, mais c'est ce qu'on voit.
Alors, vous parliez aussi du travail. Il y a des possibilités de travailler quand on est incarcéré. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors, il y a des possibilités de travailler, bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle les ateliers, où il y a des entreprises qui font travailler les personnes détenues. Donc, ils travaillent un peu. Je ne sais pas trop ce qu'il y a actuellement. Ils sont payés à la pièce. Hein, quand ils doivent mettre des pièces dans des boîtes, c'est à la pièce. Il y a du travail qu'on appelle du travail dans la détention. On appelle ça les auxiliaires, donc ils travaillent à la cuisine, ils font le service. Il y a un bibliothécaire, il y a des gens qui travaillent pour faire des petits travaux, mais ils sont très peu rémunérés. C'est, je pense, autour de 340-350 euros par mois. Ils n'ont pas de vacances. Dans le cas où quand ils sont aux ateliers, si le patron de l'entreprise n'a plus de travail pour eux, ils vont rester dans leur cellule et il n'y aura pas de compensation, ils n'ont pas de vacances. S'ils sont malades, ils ne sont pas payés. Enfin, voyez, le droit du travail n'est pas encore rentré complètement en prison. Mais en même temps, alors il y a très peu de personnes qui travaillent sur les 300, parce qu'il y a pas, il y a peut-être une cinquantaine. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui restent dans leurs cellules. Alors il y a aussi, ils ont possibilité de, il y a des cours, il y a l'école, il y a quelques activités quand même. Enfin.
Est-ce que vous aimeriez dire sur le sujet du travail en prison, Lise Bertrand, ou sur le fait de cantiner, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté
Bah, j'étais en train de chercher justement des chiffres. Oui, il faut savoir du coup que les personnes détenues touchent 45% du SMIC pour les activités de production, 33% du SMIC pour le service général classe 1, donc c'est ouvriers qualifiés, et 25% du SMIC pour le service général, correspond à classe 2, appuie au... Enfin, c'est très détaillé, et 20% du SMIC. Donc en gros, le maximum que les personnes peuvent se faire, c'est 45% du SMIC, ce qui est vraiment pas très peu. Par rapport au fait de cantiner, je trouve que ce que Monique a dit était très complet. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué, et puis comme ils sont plus habitués à gérer leur argent, je pense que c'est complexe. Je sais pas vraiment...
Moi, je voudrais préciser, cantiner, donc il faut de l'argent. Donc il y a ceux qui travaillent, ceux qui sont retraités qui peuvent se faire peut-être verser de l'argent, et sinon ce sont les familles. Et ce qui est important, c'est qu'on parle effectivement des personnes détenues, mais il y a les familles de l'autre côté, les familles qui n'ont rien fait, qui n'ont pas commis d'actes et qui sont présentes et qui viennent les voir au parloir, qui continuent à faire vivre, à s'occuper des enfants, à survivre elles aussi, et qui on les voit, elles se privent pour envoyer de l'argent pour qu'ils puissent cantiner. Parce qu'effectivement, cantiner, quand on est en prison et qu'on fume, c'est pas là où on va s'arrêter de fumer. Donc, ils ont besoin déjà d'argent pour fumer. Déjà, un minimum. Et puis, ils sont nourris. Effectivement, on dit qu'ils sont nourris, mais c'est de la nourriture. Ils ont ce qu'il faut, hein, mais c'est pas forcément toujours à leur goût. Et puis, s'ils veulent s'acheter un petit surplus, des yaourts, des gâteaux ou autre, il leur faut de l'argent. Et ça coûte aux familles, voilà. Et ça, moi, je voudrais aussi en parler des familles, parce que il y a les personnes détenues, mais il y a tout l'entourage qui n'a rien fait, mais qui se sent aussi un peu prisonnier. Voilà. Et elles le disent beaucoup, les femmes.
Voilà, d'ailleurs, quelle action vous mettez en place pour soutenir les familles? Je pense que vous évoquiez tout à l'heure une maison, des lieux d'accueil pour
ces
personnes.
Voilà, on a un lieu d'accueil qu'on appelle la petite maison. D'ailleurs, c'est les familles qui l'ont baptisé comme ça. C'est une maison que l'association a pu acheter en 86, qui se trouve juste en face de la porte de la prison. Et là, on accueille les familles qui viennent au parloir. Alors, on fait de l'accueil, on les informe sur comment avoir un parloir, quelles sont les démarches. C'est un lieu d'écoute, c'est un lieu... elles viennent, c'est un lieu inconditionnel, si elles veulent venir qu'aux toilettes. C'est un lieu ouvert, où on ne leur demande pas leur nom. Elles le disent si elles veulent. C'est leur maison, elles en font ce qu'elles veulent. Donc, on voit beaucoup... on voit beaucoup de femmes, puisque Tours, c'est une prison d'hommes. Tours, c'est une prison d'hommes. Il y a aussi un quartier mineur où il y a 10 jeunes et un quartier semi-liberté aussi. Et donc, on voit beaucoup de femmes, beaucoup de mères, beaucoup de filles, quelquefois des papas, des frères, mais très peu. Donc, on les accueille les jours de parloir. Je vous dis, un accueil inconditionnel. On a une vingtaine de bénévoles et une assistante sociale qui intervient deux demi-journées à cette petite maison.
Voilà, alors, mesdames, comment on se retrouve engagé dans une association en lien avec la prison? Pourquoi vous avez fait ce choix?
Aïe.
Bonne question. Je peux commencer. Oui. En fait, moi, je suis en master de psychologie et... Pendant un moment, j'avais le projet professionnel de travailler en détention. Bon, c'est toujours le cas, mais on verra plus tard ce que ça donne. Je me suis dit que si je voulais travailler là-dedans, il fallait que je sache comment ça se passe, que j'arrive pas sans savoir quelle était la réalité derrière, quelles étaient les conditions de vie. Et quand j'ai appris du coup l'existence du Génépi Tours, il y a plus de 3 ans. Je me suis dit, ok, il faut que je m'engage là-dedans, que je connaisse la réalité derrière ce qu'on nous dit, derrière ce qu'on nous cache, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression, en tout cas, il y a 3 ans, c'était pas le cas, J'avais pas l'impression qu'on parlait énormément de la prison. Si on s'y intéresse pas, on n'en sait pas grand-chose. Et pour nous, les personnes détenues, c'est... pour l'opinion générale, j'ai un peu l'impression que les personnes détenues, c'est une classe à part de l'humanité. C'est des personnes nées mauvaises qui... avec lesquels on n'a pas à intervenir, on n'entend pas parler de leurs conditions de vie, puis on espère qu'ils vont souffrir parce qu'ils ont fait souffrir, sauf que pour moi, c'est pas nécessairement comme ça que ça devrait se passer, et du coup, si je me suis engagée là-dedans au départ, c'était un peu par curiosité, puis maintenant, c'est par réel engagement, un réel militantisme, parce que pour moi, c'est pas la façon dont ça se passe, c'est pas comme ça que ça devrait se passer, on devrait pas créer plus de pathologies mentales, on devrait pas créer plus de malheurs, créer plus de déboussolement que ce qu'il y a de base.
Monique Carrière, je me tourne vers vous.
Oui, alors donc, moi, c'est vrai qu'effectivement, au départ, je voulais être avocate pour défendre justement les personnes détenues. Bon, je suis devenue enseignante, mais je me suis tout de suite spécialisée pour aider les élèves les plus en difficulté, alors que ce soit des élèves de la maternelle jusqu'au collège et au lycée. Et puis, je travaillais avec des élèves en grande difficulté, et il y en avait beaucoup qui allaient en prison. Donc, tout naturellement, je me suis dit, je veux aller enseigner en prison. Et puis, il se trouve qu'il n'y a pas eu de place parce que la personne qui était là était bien ancrée et n'était pas prête de prendre sa retraite. Après, bon, et puis, il y a eu une opportunité. J'ai adhéré à Entraide et Solidarité. Et à ce moment-là, qui s'appelait Entraide Ouvrière, et il y avait l'association qu'on appelait le Comité des détenus. Et j'ai rencontré la présidente de cette petite association qui avait l'accueil des familles. Et ben, ça a été un peu... J'ai découvert cette femme, ce qu'elle faisait, cette passion et tout. Donc, j'ai commencé par la petite porte, par la petite maison. J'ai été bénévole à la petite maison. Ensuite, j'ai été présidente de cette association. Et quand j'ai pris ma retraite, tout naturellement, j'ai demandé à être visiteuse pour aller aussi de l'autre côté, voir ce qui se passait dans la grande maison, parce que ça m'intéressait aussi. Et puis, j'ai proposé aussi d'être écrivain public, toujours dans l'idée d'aider les plus démunis. Là, c'est même les plus démunis de la prison, ceux qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Voilà ma démarche.
Et alors, mesdames, Tours est une prison d'hommes. Alors, comment est-ce que ça a une incidence quelconque ou pas du tout d'être une femme et de souhaiter travailler avec des détenus?
Alors, moi, j'ai pas trouvé qu'il y a d'incidence. Alors, bon, effectivement, moi, je suis plus âgée, donc il n'y a pas. C'est pas compliqué, voilà. Les relations qui sont établies avec les personnes détenues sont pas compliquées. Pour moi, c'est clair. Alors après, je sais pas, quand on est plus jeune, si c'est plus compliqué. Je sais pas. Je me tourne vers toi, Lise.
Non, moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué. Au contraire, les hommes que j'ai pu rencontrer en détention, du coup, étaient des personnes qui étaient plus correctes que ceux que je peux rencontrer en dehors, pour la plupart. Donc... Non, il n'y a pas eu de soucis. Les soucis que j'ai eus, c'était plus avec les surveillants qu'avec les personnes détenues. Parce que les surveillants, il y en a certains ils ont une façon d'être qui est beaucoup plus impressionnante pour moi que les personnes détenues, parce que c'est eux les détenteurs de l'autorité au sein de la détention. C'est eux qui ont les clés, c'est eux qui nous laissent passer. Donc non, c'était pas particulièrement compliqué.
C'est plus le rapport au pouvoir, alors, qui rend peut-être incivil, disons.
Oui, totalement.
Et alors, quand même, parce que là, on parle d'une prison d'hommes, mais il se trouve, évidemment, malheureusement, il y a aussi des femmes détenues, pas à Tours, mais il y en a. Et alors, quelques questions, mesdames, auxquelles vous avez sûrement des réponses à apporter pour nos auditeurs. Comment ça se passe si une femme entre en maison d'arrêt, ou en tout cas est détenue, alors qu'elle est enceinte? Qu'est-ce qui se passe?
Bien, elle est quand même en maison d'arrêt. Elle est détenue. Elle va accoucher et elle peut garder son enfant jusqu'à, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans. Elle peut rester. Il y a des lieux qui sont dans des prisons. Alors, je pense qu'il y en a une à Saran, à Orléans. C'est des lieux particuliers où pendant 2 ou 3 ans, je sais plus trop, elle vit avec leur bébé. Et à partir de là, 2 ans ou 3 ans, où c'est la famille qui le récupère, où il va en famille d'accueil. Mais elle reste en prison avec leur enfant. Enfin, elles accouchent, elles vont accoucher à l'hôpital, mais elles reviennent en détention. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, comment, de privilèges. On ne les fait pas sortir parce qu'elles sont enceintes. Elles restent en prison. Et elles élèvent leur enfant, je vous dis, 2 ou 3 ans.
Et qu'en est-il des personnes à mobilité réduite? Parce que là, même, on imagine aussi qu'il y a quand même une partie de la population carcérale qui gagne en âge. Mmh. Donc comment, est-ce qu'il y a une loi qui prévoit que les locaux soient adaptés?
Alors, il y a, donc à Tours, il y a un rez-de-chaussée. Donc, quand il y a des personnes à mobilité réduite, ils les mettent au rez-de-chaussée. Alors après, si elles ont un fauteuil roulant, je sais pas s'il y a une cellule. Je pense pas qu'il y ait une cellule qui soit adaptée. Mais il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite qui ont difficulté à marcher. Ils les mettent au rez-de-chaussée, de façon à ce qu'ils, voilà, que ce soit plus facile pour eux. Mais en même temps, s'ils doivent aller à l'infirmerie, c'est au premier étage. Alors je sais pas trop. C'est compliqué. Oui, effectivement, c'est compliqué. Il y a pas d'ascenseur à Tours. Voilà, après, il y a peut-être des prisons, il y a des ascenseurs, mais à Tours, il y en a pas.
Et alors, il y a une autre population aussi dont on peut parler qui arrive aussi en prison, c'est les personnes LGBTQIA+. Qu'en est-il de ces personnes-là? Parce que peut-être qu'elles aussi, elles ont des problématiques particulières en prison.
Bah, elles en ont, mais je vous avoue que du coup, c'est un sujet qui c'est un sujet qui est assez récent, parce que la préoccupation pour les personnes LGBT, c'est quelque chose d'assez récent. Du coup, au Génépi, on a commencé à s'y intéresser, à faire des formations spécialisées là-dedans dans nos moments de regroupement, comme par exemple ce week-end. Mais pour les personnes LGBT, bah, c'est super compliqué, parce que quand on parle de personnes LGBT, du coup, on parle d'orientation sexuelle et de sexualité, et du coup, la sexualité en détention, on sait que c'est très complexe, et il y a quand même un taux de il y a de la LGBTI-phobie de façon très certaine, et je pense que c'est encore plus, enfin, c'est même sûr que c'est encore plus complexe pour eux là-bas. Il y a des personnes qui adoptent une sexualité LGBT le temps de leur détention parce qu'il faut bien, parce qu'à certains moments il y a des besoins, il y a des envies qui se créent, mais il y a énormément de LGBTI-phobie.
Mm. Et ça, alors, il y a pas de, comment dire, de réflexion à une échelle nationale sur ces choses-là, donc si, par le Génépi, mais est-ce que c'est des sujets dont quelqu'un se préoccupe quelque part, aussi bien le suivi de ces femmes là pour créer un lien avec leur enfant, que c'est les personnes LGBT, que les personnes âgées en détention? Est-ce qu'il y a des observatoires ou des choses?
Alors, il y a l'Observatoire international des prisons, l'OIP, qui, je pense, est assez vigilant, mais il faut qu'ils soient interpellés. Voilà, c'est un observatoire. Je sais que nous, notre association, non, c'est pas dans nos, enfin, nos missions, c'est pas ça. Enfin voilà, nous on ne le fait pas. Alors je sais pas. Le Génépi plus, je pense, il y a plus de réflexion du côté du Génépi.
Bah, comme on est une association majorité étudiante, c'est vrai qu'on peut avoir un public un tout petit peu plus jeune et plus porté sur les questions LGBT. Après, oui, comme je le disais juste avant, c'est assez nouveau pour nous comme préoccupation, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un souci, et du coup on essaye de relayer la parole, de relayer des témoignages par rapport à ce type de vécu, mais c'est vrai que c'est assez récent comme préoccupation.
Mmh. Eh bien, mesdames, je vous propose de faire une seconde pause musicale dans cette méridienne. Je rappelle que je suis en studio avec Monique Caria, Entraide et Solidarité et Association Nationale des Visiteurs de Prison, et Lise Bertrand du Génépi. Nous allons écouter un morceau de Pika Pao, et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours.
Esse tempo preciso de tempo, minha alma e o meu corpo chamam você, aroma. Preciso de tempo, estava tão preocupado contigo, minha filha, voltei para casa. Menina, onde estavas? Sedento, preciso de tempo, minha alma e meu corpo chamavam ser uma. Preciso de tempo, estava tão preocupado contigo. Minha filha, voltei para casa. Você é um passarinho branco. Você é um passarinho preto. Você é um passarinho boa. Não, mas tenho coringa, o najo branco voa. A vida não significa nada. Menina, onde estavas esse tempo do? Preciso de tempo minha alma e meu corpo chamam ser humano. Preciso de tempo. Estava tão preocupado contigo. Minha filha, voltei para casa. Você é um passarinho branco. Você é um passarinho preto. Você é um passarinho boa. Najo, mas tenho coringa. Najo branco boa. A vida não significa nada. Você é um passarinho preto. Você é um passarinho boa. Najo, mas tenho coringa. Najo branco boa. A vida não significa nada.
Écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours. Je suis en compagnie de Monique Caria, Entraide et Solidarité et Association Nationale des Visiteurs de Prison, ainsi que Lise Bertrand du Genépi. Alors, mesdames, nous discutions évidemment hors antenne de plein de choses, mais j'aimerais à présent parler aussi de culture en prison, culture et prison, puisque Monique Caria, vous disiez tout à l'heure que vous vous occupez de la bibliothèque. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez en dire sur cette idée de permettre un espace de lecture aux personnes détenues? Et peut-être, Lise Bertrand, vous avez des exemples d'actions culturelles mises en place par le jeune épi, mesdames?
Alors moi je trouve ça indispensable que des personnes puissent avoir accès à la bibliothèque de Tours. Il faut savoir qu'actuellement ce n'est possible que 2 jours par semaine parce que nous sommes des bénévoles qui intervenons et que notre idée ce serait qu'elle soit ouverte tous les jours, comme une, peut-être pas le dimanche, mais qu'elle soit là, c'est que 2 jours par semaine. Et moi j'ai découvert des gens, bon il y a des gens qui déjà lisaient beaucoup, hein, parce qu'en prison n'importe qui peut y aller, c'est ce qu'on se disait entre nous, il y a des gens qui ont une grande culture, mais il y a des gens qui sont venus au début à la bibliothèque parce que bon, ils se sont dit si je fais telle action ça va me sortir, je vais venir et tout, et qui ont découvert la lecture. Moi je me souviens d'un monsieur qui entre-temps est devenu bibliothécaire à la maison d'arrêt et qui m'a dit « Moi, j'étais jamais allée dans une bibliothèque. » Il a découvert le plaisir de lire et il dit « Moi, quand je sortirai, la première chose que je ferai, je m'inscrirai dans une bibliothèque. » Et je trouve que ça, c'était formidable. Et là, on a un projet avec d'autres visiteurs et puis la Ligue de l'enseignement. Il y a BD Lire quelque chose qui existe sur Tours. Et on a un projet que l'année prochaine, des personnes détenues et des surveillants participent à ce projet, c'est-à-dire qu'il va y avoir un choix de BD, il y aura un prix qui sera attribué par les personnes détenues et les surveillants. Il y a des surveillants volontaires parce que ce qui est important, c'est de montrer aussi que ce ne soit pas les uns contre les autres. Et je trouve que ça, c'est un projet auquel on tient beaucoup. Peut-être qu'on reviendra en parler à ce moment-là, mais je trouve que ça, c'est très bien. Et on aimerait dire simplement qu'il faudrait qu'elle soit, cette bibliothèque puisse être ouverte plus souvent. Et malheureusement, quelquefois, on fait une permanente 3 heures et on n'a personne parce que, pour je ne sais quelle raison. Voilà. Mais ça, c'est un peu dommage parce que c'est quand même une grande ouverture, la bibliothèque.
Et du coup, au Génépi, quand on est intervenu sur la maison d'arrêt Tours, donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, nous on fait pas nécessairement du culturel, on appelle plus ça du socio-culturel. Ce qu'on a pu faire cette année-là, c'était, alors on avait un atelier jeux de société, on avait un atelier philo, un atelier sophrologie, un atelier danse hip-hop, je sais pas si j'en oublie. Du coup, je peux pas trop parler de la culture, je peux plus parler de... du fait que les personnes, en tout cas, quand on en discutait avec eux, étaient très reconnaissantes du fait qu'on vienne faire ça et que ça leur faisait énormément plaisir de pouvoir participer à ce genre d'activité. Des fois, les surveillants étaient trop surpassés par le travail pour pouvoir amener tous les détenus. Et quand, à la séance d'après, on leur demandait « t'es pas venu la dernière fois ?» Ils disaient « on n'est pas venu me chercher. » C'était... Soit je venais, soit je faisais du foot, soit je venais, soit je voyais mon avocat. Donc le choix est vite fait, ils font ce qui va être le mieux pour eux, mais je pense que c'est très important qu'on puisse leur offrir des choses qui les fassent l'ombre d'un instant sortir de la prison.
Alors on rappelle que les 26e journées nationales prison se tiennent du 23 au 30 novembre 2019. Justice, prison, sortir du cercle vicieux. Et avant les journées nationales prison, le 5 novembre 2019, 20h30, salle Jean de Hockeghem, 15 place de Châteauneuf. Il y a une pièce de théâtre à côté. Mesdames, qu'est-ce que vous aimeriez en dire de cette...
Alors, cette pièce de théâtre, elle est adaptée d'un film documentaire de Stéphane Mercurio. Donc, Stéphane Mercurio avait fait ce film à côté il y a peut-être une dizaine d'années. Et elle était allée filmer des familles dans une maison d'accueil comme la nôtre. C'était à côté de Rennes. Donc là, ce sont 2 comédiennes qui sont sur scène, qui ont repris alors les propos des femmes dans le film, quand elles attendent avant le parloir, ou après, parce que quelquefois le parloir s'étant mal passé, elles reviennent. Et c'est ce qu'on voit, nous, quand on est dans notre maison d'accueil, ces femmes qui, En même temps, elles sont contentes de venir voir la personne. Elles peuvent être sorties et être déçues en disant « Mais de toute façon, il n'y en a que pour lui. Il pense que moi, je m'amuse avec tout ce que je fais. » Et la pièce de côté montre bien toute la colère qu'il peut y avoir, l'espoir, la passion quelquefois, la peur et toutes les angoisses que peuvent vivre ces femmes, alors qui peuvent être passées de la joie à l'angoisse en peu de temps, parce qu'il suffit que les 40 minutes qui leur sont octroyées de parloir, voilà, ils se soient mal passés. Donc c'est une pièce de théâtre qui sont deux personnes sur scène. Voilà, il y a beaucoup d'émotions et on retrouve, et je trouve ça très bien qu'on puisse porter la parole de ces femmes qui sont aussi quand même des oubliées. Elles sont les oubliées de ce système, voilà. Et elles nous disent quelquefois, mais moi je suis autant prisonnière que lui. Parce que moi, dans ma famille, à telle personne, je n'ai pas osé le dire. Mes enfants, je ne sais pas comment leur dire que leur papa est en prison. Parce que quelquefois, elles viennent le voir, mais elles disent, on vient voir papa, il est au travail. Parce que c'est trop dur de parler de la prison. Voilà, donc cette pièce de théâtre, écoutez, moi je la recommande, je l'ai vue, ce sont des gens de Lille qui viennent, voilà, c'est un bon moment où il y a de l'émotion, quelquefois on est dans la joie, on ressent tout ce qu'elles peuvent vivre. Et peut-être que Stéphane Mercurio, qui a fait le film, viendra. Pour l'instant, elle ne sait pas si elle aura à ce moment-là un travail ou pas, mais ce serait super si elle venait et qu'on puisse échanger avec elle sur cette démarche.
Voilà, alors on rappelle là, à côté, Théâtre de l'Escapade, pièce de théâtre le 5 novembre 2019, 20h30, salle Jean de Hockeghem, participation libre. Et peut-être que pour le jeune épi, est-ce qu'il y a des choses à venir, des choses à annoncer ?
Du coup, pour l'instant, les seuls événements qu'on a, c'est par rapport aux journées nationales prison. Donc, entre les dates du 23 et du 30, pour l'instant, donc c'est avec toutes les autres associations, y compris Entrée des Solidarités. On a...
Le Secours catholique, voilà. Qui...
Ouais. C'est vrai, on fait ça avec plein d'associations.
Qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais...
Du coup, on va avoir deux événements. Donc, les deux seront dans des amphithéâtres de l'extension de la fac des Tanneurs. Donc, le lundi 25, de 18h à 20h, on aura une conférence par un docteur en philosophie de l'Université de Poitiers sur le livre « Surveiller et punir » de Michel Foucault. Donc, il nous parlera du livre et il essaiera de faire des liens avec l'actualité. Et le 26, donc le mardi 26 novembre, on aura une table ronde autour des peines alternatives. Ça sera au même endroit. Voilà.
Merci mesdames. Est-ce que vous voulez rappeler, avant que l'on se quitte, peut-être des sites internet où l'on peut trouver des informations intéressantes sur le sujet, peut-être même déjà les sites de vos structures?
Alors bon, écoutez, il y a la FARAPEJ, Fédération Action Réflexion Prison Justice. FARAPEJ, mais je ne connais pas exactement le... Non, mais si on tape FARAPEJ, on le trouvera, voilà. L'ANVP aussi, on peut trouver des choses.
Ouais. Après, ce que je conseille vivement aux auditeurs, c'est du coup l'OIP, oui. L'Observatoire International des Prisons. Ils ont un site internet qui est vraiment super, avec énormément de ressources sur plein de sujets différents. Et après, bah, y a le site internet du Genepi National, genepi.fr, je suppose. Et après, il y a toutes les pages Facebook des différents groupes locaux. Donc, on va avoir les pages Facebook du national et des locaux. Puis, on a aussi des comptes Twitter.
Et on a aussi le site Entrée des Solidarités et une page Facebook Entrée des Solidarités.
Voilà, donc nous indiquerons tous ces liens sur le podcast de cette émission qui sera rediffusée aujourd'hui même à minuit. Et avant de se quitter, moi je ne résiste pas à la tentation de vous rappeler qu'il y a le film César doit mourir des frères Taviani. Voilà, film qui se déroule à la prison de Rebibbia en Italie et on y voit filmé en noir et blanc des détenus en fait, voilà, qui s'embarquent dans une aventure théâtrale. Voilà, donc l'objectif c'est de leur faire jouer Jules César de Shakespeare. Et on voit dans ce film toute leur avancée jusqu'à la présentation finale de la pièce aux familles. Et il y a un parallèle très intéressant entre leur vie de détenue et la vie qu'ils ont quand ils incarnent leur personnage, puisqu'ils répètent dans toute l'enceinte de la prison. C'est un très beau film qui alterne le noir et blanc et la couleur, donc je recommande aux auditeurs qui ne l'auraient pas déjà vu d'aller regarder César doit mourir des frères Taviani. Grand merci à vous, mesdames, d'être venues sur Radio Campus Tours pour parler des 26e journées nationales prison qui se tiendront du 23 au 30 novembre 2019. Merci à vous, Monique Caria, Entraide et Solidarité et Association nationale des visiteurs de prison, et à vous, Lise Bertrand, du Jeune Épi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée à l'écoute de nos programmes.